d'être de retour et puis pour continuer cette étude sur le merveilleux livre des juges. Petite récapitulation, c'est des slides que j'ai tirés du dernier cours avec Osée. Alors les cinq phases, les phases du cycle des juges, on dit c'est l'apostasie premièrement. On peut commencer par l'inverse aussi, mais je crois que l'apostasie c'est ça qui a débuté, qui a ce cycle où les Israélites, ils abandonnent carrément l'Éternel. Ils oublient l'Éternel, ça va bien, ils oublient l'Éternel. Et puis, ils se mettent à adorer les idoles des Cananéens, leurs voisins, les peuples qu'ils n'ont pas chassés complètement du territoire. Baal, Astarté, toutes ces idoles-là, ils se sont mis à se prosterner, à adorer. Ils se mettent à adorer. Et après, automatiquement, ça devient Dieu envoie une nation ennemie pour opprimer Israël. Un jugement. C'est ceci qui se répète tout le long. Le prochaine étape, le peuple crie à l'Éternel parce qu'ils sont oppressés. Et dans leur détresse, l'Éternel va envoyer un juge. Il va susciter un juge pour délivrer Israël de ses ennemis. Et pour un temps, jusqu'à la mort du juge, ils vont servir l'Éternel. On l'avait vu avec Josué, n'est-ce pas? Tout le monde était bien heureux, puis tout le monde suivait le Seigneur jusqu'à ce que Josué soit parti et que c'est les gens qui ont travaillé avec les anciens, qui ont travaillé avec Josué. Dans ce cas-ci, dans le cas des juges, plutôt que le juge est mort, le cycle commence. Des fois, c'est des périodes de 40 ans. Il y a un temps quand même de paix, de tranquillité. Dieu leur donne ce privilège-là de rester en paix pendant un temps, mais après ça recommence. Les gens oublient les bontés de l'Éternel et puis ils se mettent à adorer les idoles. Et nous avons vu aussi, c'est une slide de notre frère, nous avons vu certes les juges qu'on a vus à date, c'est Othniel, vous vous rappelez, c'est le premier juge qu'on a vu dans le chapitre 3. Et après ça, c'est Ehud dans le chapitre 3. Shamar, on voit, c'est les nombres d'années qui sont, je pense, qui sont durées la paix. La paix était pendant 40 ans, ils étaient en paix. Dans le cas de Othniel, 40 ans après Othniel, c'était la paix. Waouh, ça fait du bien, hein? 40 ans en paix. Dans le cas de Ehud, 80 ans. C'est toute notre vie, cela, là. Enfin, un peu plus, là. Parce que nous n'avons pas tous 80 ans ici. Là. Enfin, toute cette période-là, ils sont en paix. Mais ça va commencer. Dans le cas de Shamar, le verset 31, c'est vraiment court. Il ne parle pas longuement de Shamgar. Mais c'est les Philistins qui ont attaqué. Ils n'ont pas dit pendant combien de temps. Mais dans le cas de Déborah, c'est dans le chapitre 4 avec Barak. 40 ans après, le pays a connu le repos, la paix. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 5, mais on ne peut pas avancer si on ne recule pas. Dans le chapitre 4, Dieu s'est servi de la fidélité de Déborah et de Jaël. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si vous vous rappelez tous. Déborah qui a dû donner un coup de pied dans le derrière de Barak. De Barak, il faut se lever pour aller attaquer malgré la prophétie que Dieu avait mise sur le cœur de Déborah. Pour lui dire, mais lève-toi, voilà, je veux te livrer Jabin, n'est-ce pas, Cananéen. Mais il a fallu que l'aide de notre sœur Déborah, pour réveiller la conscience de Barak. Nous avons aussi vu le peuple tout entier qui s'est réveillé face à ses responsabilités. Parce que c'est comme s'il était un léthargie, les gens dormaient. Après, pour comprendre, après 80 ans, je pense, après 80 ans, là, puis se laisse aller, puis ça va bien, puis on oublie l'Éternel, et puis une bonne partie se livre à des idoles. L'ennemi, les Cananéens, a été battu grâce à l'intervention de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez les scènes, dans le cas de Jaël, comment il a été délivré, la Sisera, right? Avec le marteau et tout ça, c'est des trucs. Tu dis, mais c'est pas normal ça, mais c'est l'intervention de Dieu à diriger toutes ces choses-là avec l'intervention de Dieu. Mais les hommes et les femmes ont dû jouer leur rôle quand même. Les, 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 les soldats, le peuple tout entier se sont réveillés pour aller combattre. Dieu est là, il va les aider, mais ils avaient un rôle à jouer aussi dans le chapitre 4. Dans le chapitre 5, nous allons voir, c'est un chapitre assez long, je pense qu'il y a 31 versets là-dedans, comme ça on va aller par section. Je vous propose d'aller par section, on n'ira pas tout d'un coup, d'une shot, mais de temps en temps, je vais signaler des textes à lire. Ça parle de l'Éternel, l'opération de délivrance, on peut dire miraculeuse de la main de Dieu, par les deux femmes. On parle de Déborah, la prophétesse, et Jaël, vous vous rappelez. Et aussi par un homme, Barak, on va dire sans caractère, on dirait. Parce que quand on lit dans le texte, chapitre 4, il dit à Déborah, le gars là qui est responsable, qui était supposé, comme je dis là, il y avait une prophétie de la part de Déborah que Dieu va le livrer, Dieu va le délivrer. Mais il dit, non, si tu vas pas, moi, je vais pas. Il dit ça à Déborah. Et dans le verset 8 du chapitre 4, il dit, Barak lui dit à Déborah, si tu ne viens pas avec moi, donc si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Wow! Alors que son pays est en guerre, en fait. Ils se sont fait attaquer par les Cananéens. Et là, c'est sa réflexion à lui. Ça faisait 20 ans qu'ils étaient sous l'oppression des Cananéens. Mais Dieu les a délivrés. Et cette victoire semble signaler un réveil au sein du peuple. Parce qu'on a vu le peuple se réveiller, les chefs se sont réveillés. Et cette victoire, on voit que quand même un réveil. Mais dans ce chapitre-ci, dans le chapitre 5, Déborah et Barak reconnaissent et célèbrent dans un cantique les bénédictions de Dieu au travers de leur délivrance, cette délivrance qu'il les a accordée, qu'il a accordée à Israël. Alors on voit les deux, Barak et Déborah qui sont, je ne sais pas si c'est eux, en fait le cantique c'est le cantique de Déborah, mais on voit que c'est les deux qui se sont mis ensemble pour ce cantique-là. Ce que nous allons lire dans le chapitre 5, qu'on appelle le cantique de Déborah, je pense qu'il dit ça. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak. Et que les deux étaient là pour la louange. C'est une reprise des guerres. Dans le chapitre 5, c'est quasiment le chapitre 4 qui nous est représenté sous une autre forme. Okay? Le chapitre 4, c'est une reprise des guerres et des victoires du chapitre précédent. C'est les mêmes événements qui sont reprises, mais dans un champ de reconnaissance, sous une forme de poésie. Okay? C'est exactement les mêmes choses. Dans le chapitre 4, donne une description des combats et des victoires politiques, militaires. On a vu quelques stratégies de Jaël, etc. Comment Dieu intervient. Comme si c'était un journaliste qui faisait un reportage de ce qui s'est passé. Ça, c'est le chapitre 4, sans entrer dans de gros détails. Mais dans ce chapitre 5, ce sont les mêmes faits du chapitre 4, mais qui sont présentés sous forme de poésie, qui permet aux auteurs de donner libre cours à leurs sentiments et aussi avec un accent vraiment de reconnaissance. Ils vont reprendre tout ce qui s'est passé dans le chapitre 4, toutes les victoires. Ils vont voir, vous démontrer, ils vont reconnaître la main de Dieu dans toutes ces victoires. Et c'est pour ça qu'on a ce chapitre 5 là qui parle de le cantique. En fait, dans l'Ancien Testament, il y a eu d'autres cantiques comme ça, les cantiques de Moïse, les cantiques de David, etc. Après les victoires, le peuple tout entier a chanté des cantiques à l'Éternel. Et j'imagine que c'est le même concept aussi, mais de cette fois-ci qui vient des dirigeants. C'est les dirigeants qui amènent le peuple à la louange. Dans ce cas-ci, c'est Barak et notre ami Déborah. Alors, on va commencer avec les 5 premiers versets d'abord, dans le Juge, chapitre 5. Alors, il dit, en ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Aminoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu es sorti de Séir, quand tu avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà les cinq premiers versets et qui, on peut le voir déjà, c'est une reprise de ce qui a été, ce qui s'est passé, mais avec un élan de louange et de reconnaissance. Alors dans ce chant-là, dans ce texte-là, on voit la délivrance qui est suivie par un chant de louange. Et l'auteur, et je peux dire que c'est, si on parle de Barak et de Déborah, ils vont aller dans les détails spécifiques pour aller chercher vraiment des sujets spécifiques de louange à travers cette délivrance-là. Barak, mais qui a perdu l'honneur, parce que nous l'avons vu dans le chapitre 4, Déborah lui a dit ça. Il dit, mais là, tu veux que je vienne avec toi, mais tu n'auras pas l'honneur. Tu n'auras pas l'honneur. C'est moi qui vais avoir l'honneur. Mais il est parti quand même. Mais bien qu'il n'ait pas eu l'honneur d'un héros, mais il sent Dieu. Je pense que le travail de Dieu vraiment qui met en son cœur le désir de célébrer les louanges de Dieu, de la reconnaissance envers Dieu. Il s'est quand même associé. Il s'est associé à son boss, la chef de la nation, la juge Déborah, dans ce cantique de victoire. Les deux sont ensemble dans ce cantique de victoire. Ils sont reconnaissants. Quand tu lis, on voit qu'ils témoignent leur reconnaissance, premièrement pour l'engagement des chefs. C'est spécial, n'est-ce pas? Ils vont chercher dans les victoires toutes les personnes qui ont été mises à contribution pour cette victoire-là. On voit qu'ils disent qu'ils bénissent l'Éternel pour le fait que des chefs se sont levés pour se mettre à la tête du peuple. C'est pas peu dire, parce que dans une situation comme ça où l'ennemi nous assaille, et puis plus tard, on va voir dans le texte qu'ils n'ont pas des munitions, hein. Ils n'ont pas beaucoup de munitions. Et pour se lever, pour tenir tête à notre ennemi, ça prend du courage et les gens ils ont reconnu ça. Ils voient que c'est l'intervention même de Dieu que ces chefs-là puissent s'engager malgré tout pour se lever et se mettre à la tête du peuple pour dire « let's go, on va affronter l'ennemi ». Et pour ça, ils sont vraiment reconnaissants pour ça, que ces chefs-là se sont levés pour aller contrer l'ennemi. Dans ce même section-là, cette même section, on voit aussi qu'ils sont reconnaissants pour l'engagement du peuple. Ils remercient le Seigneur pour le peuple. Il dit, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Les chefs sont prêts, ils ont témoigné de leur engagement, mais aussi le peuple était prêt à combattre. Il y a sûrement eu un travail de conscientisation qui est fait, c'est pas indiqué dans le texte, mais ils sont reconnaissants que Dieu a mis à cœur au peuple de se réveiller, d'être prêt pour les combats. Ils sont reconnaissants particulièrement parce que la crainte qui paralysait Israël a été bannie. Mettez-vous dans ce contexte-là. Hein? Ça faisait 20 ans, dit le texte, qu'ils étaient opprimés par Sisera et Jabin, les Cananéens. Et on comprend qu'il y avait une paralysie au niveau de l'armée. Et puis tout le monde avait peur. Et puis pendant 20 ans, on parle de 20 ans. C'est long maintenant de faire écraser là, par une armée. Et pour se lever, il a fallu bannir cette crainte. Il faut vaincre cette crainte-là. On dit, bon là, let's go, peu importe ce qui s'est passé dans les dernières 20 ans, là, on va aller de l'avant. Et nos chers auteurs, Déborah et Barak, ils sont reconnaissants envers Dieu que cette crainte-là soit bannie. Et c'était l'élément déclencheur, hein? C'est l'élément déclencheur, parce que la crainte a banni le peuple est prêt à se mettre autour de leur chef et combattre ensemble l'ennemi que Dieu va leur permettre de battre. On voit des hommes qui se lèvent, un chef, des chefs qui se lèvent, un peuple qui se lève, la crainte qui est partie, qui est dissipée, tout le monde se met ensemble, mais il y a aussi l'intervention de Dieu l'auteur, Déborah et Barak, ils voient aussi l'intervention de Dieu et ils sont reconnaissants de l'intervention divine. Et on va voir plus tard dans les textes à venir comment ils mettent ça en projet, comment ils voient la main de Dieu à travers tout ce qui s'est passé pour leur donner la victoire. Ils comprennent que l'artisan principal de la victoire, c'est Dieu. Les hommes ont dû combattre, mais ils comprennent dans ce texte-là que l'ennemi est l'artisan, celui qui donne vraiment la victoire, qui a tout orchestré, c'est Dieu. Et ils sont reconnaissants dans ce cantique-là, ils expriment leur reconnaissance envers Dieu. Et si on lit les textes, on voit vraiment que les termes nous le disent, qu'ils sont vraiment reconnaissants. Cette louange, c'est une louange de la part des Israélites. Les autres nations, ce n'est pas leur affaire, parce qu'eux, ils vont être battus. Et nous voyons que c'est comme dans le texte, il le dit, les rois et les princes, vous devez écouter. Écoutez comment est-ce que nous allons louer l'Éternel. Nous sommes reconnaissants, le cantique qu'on va chanter à l'Éternel, car la gloire est à l'Éternel. Ils le disent aux ennemis, aux princes des nations. Ils sont vraiment reconnaissants. Ils voient l'intervention divine dans cette victoire-là. Ils voient l'engagement de Dieu aussi. Ils voient l'engagement des humains. Oui, elles sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants pour l'engagement humain. On a vu qu'ils sont reconnaissants pour l'intervention divine. Ils voient l'intervention divine. Et regarde comment ils voient l'intervention divine, comment qu'ils mettent en poésie, on va dire, l'intervention divine. Comment ils comprennent, ils comprennent l'intervention divine qui leur a permis de battre. Il dit, l'engagement de Dieu se manifesta par un orage violent et avec tonnerre et pluie abondante. C'est une traduction de ce texte-là, de cette poésie-là. Quand il dit « la terre trembla », c'est ce que le texte nous dit, parce que ce qui est en gras, là, la terre trembla, laisse se fendir, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Il voit que c'est l'Éternel vraiment qui est en action. C'est l'Éternel qui contrôle les événements, qui fait partir... qui fait déferler l'orage avec des vents violents pour terrasser l'ennemi. Et ils sont vraiment reconnaissants à l'Éternel pour ça. On a quelque chose de semblable dans Exode 19, verset 18, sur le Sinaï. On voit même qu'ils vont pointer vers le Sinaï dans le texte qu'on a lu là. C'est comme si pour eux, c'est quand l'Éternel est descendu sur le mont Sinaï, comment il parla, il disait, le texte dit que la terre trembla, la montagne de Sinaï s'était toute en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'éleva comme une fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. La présence de l'Éternel dans ce contexte-là, quand Moïse a rencontré l'Éternel sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, c'est la scène. Et pour eux, ils voient, ils comparent leur victoire à ce scénario-là parce qu'ils vont même parler de ce Sinaï, ils vont dire dans le texte, ce Sinaï. Ils voient vraiment que c'est Dieu qui opère.
Je pensais avoir le Sinaï, qu'au Sinaï, Dieu a fait une alliance avec le peuple pour le protéger aussi, le bénir. Donc, c'est l'Éternel qui est là pour accomplir
sa promesse.
Continuer même sa promesse.
Sa promesse. Oui. Mais il faut être.
C'est très symbolique, la terre tremble et les cieux se fendirent quand Jésus sur la croix, tout s'est accompli, la terre a tremblé aussi. C'est particulier, c'est une victoire pour Dieu sur le péché.
C'est la présence même de Dieu qui est là. C'est une confirmation que Jésus-Christ est Dieu aussi. La puissance de Dieu, c'est beaucoup de puissance qui est là. Et là aussi, on voit la grâce de Dieu. Et que surtout dans le cas de... Dieu nous permet de le rencontrer aujourd'hui. On n'a pas besoin de peur, d'avoir peur de ce Dieu-là et qui est tonnerre. et que les éléments fondent devant lui, que nous, à travers Jésus-Christ, on peut avoir un accès direct sans avoir peur de sa colère.
Même des fois, dans certains passages, je ne peux pas dire lesquels, mais il y a des endroits où les gens, quand on parle à Dieu, ils parlent à Dieu. Les gens autour entendent le bruit du tonnerre.
Ça me fait penser à un truc que je regardais cette semaine. à la télévision, bien sûr, YouTube, quelque chose. Là. Puis un monsieur qui se dit, soi-disant pasteur, puis qui a toute la puissance du monde d'après lui, là, il dit, moi là, je parle à Saint-Esprit, là, je peux appeler le Saint-Esprit pour... Aïe, 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 tu dis, mon ami, mon ami, mon ami, avec arrogance, là. Il dit, moi, je connais Saint-Esprit, je peux appeler le Saint-Esprit, je peux... Ah, c'est pauvre lui, tu l'as rencontré le Mais, oui, vas-y frère.
Justement, par là, tantôt tu as cité le verset 8, où Barak a dit, si tu ne vas pas, je ne vais pas avec toi. Et le verset 9, Déborah a répondu pour dire que Dieu va livrer Sisera, mais entre les mains d'une femme.
D'une femme.
On s'attend, après la victoire, à une femme qui dit, écoute, voilà,
je vais
là.
Ouais.
Parce que finalement, c'est grâce à moi.
Ouais.
Une femme qui est femme.
Ouais. Ouais.
On voit toute l'humilité dans son
ouais.
pratique.
Ouais.
Tout le verset 2 dont tu as parlé, là, ça résume quoi ? Elle parle des chefs. Elle parle du peuple. Donc, ce n'est pas les chefs qui sont mis en avant. Le peuple aussi est mis en avant.
Oui.
Et puis, elle parle de qui donne vraiment
les trois. Oui, les trois.
Oui. C'est vrai qu'après, on va citer Déborah, mais pas si elle veut. On va citer Barak, mais c'est
oui.
vraiment.
Mais c'est une prophétesse que citer, vous pouvez. Moi, justement, je pensais à ça, puis deux heures après la bataille, je me suis une semaine après. Déborah était juge. Mais si on regarde dans Exode, je regarde ça tantôt, dans Exode, Jéthro a dit à Moïse, tu
établiras.
Tu as trop
travaillé
avec
des juges.
Alors, moi, j'ai l'impression que Déborah était premièrement une prophétesse. Pourquoi Barak voulait l'avoir? Oui, Barak voulait l'avoir oui, avec elle, avec lui, parce que c'était une prophétesse. Et elle n'était pas juge dans le sens des juges que Dieu m'a suscité. Moi, je crois que c'est une femme.
Mais le texte nous dit que les gens allaient vers elle pour se faire juger.
C'est vers
Moïse, c'est ça. C'est ça. C'est pour trancher. Pour trancher. Ouais, c'est ça. Ouais.
En tout cas, moi, c'est ce que je pense, pour ce que ça vaut. Je pense que Déborah était une juge, pas dans le même sens que les juges que Dieu suscitait pour le peuple.
Ok. Ben, je peux pas dire, je peux pas contredire, je peux pas contredire, là, je peux pas contredire.
Non, parce que c'est. Mais moi, c'est, je le vois comme ça. Puis, comme elle était prophétesse et que ça amenait pour Barak des visions.
Mais si tu vas dans le verset 7, 6, 7, tu vas voir, elle a prophétisé. Elle a prophétisé même de la victoire.
C'est ça, alors lui, il voulait la prophétesse.
Oui, oui. Oui, peut-être sa présence de Dieu, là. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ah, j'ai pas vu ça comme ça. Oui, oui, oui. Ouais. Cette protection-là, oh, tu représentes Dieu, viens avec moi.
Va chez le prophète et demande-lui ce qui va m'arriver.
Oui.
Plusieurs fois, c'est mentionné dans la Bible.
Alors, oui, là, mais je crois que c'est une mécompréhension de son Dieu. N'oubliez pas, il est quand même israélite, là, quand même.
C'est ça.
C'est ça. Mais c'est l'humain en nous, hein? C'est l'humain en nous.
Oui.
L'arche, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est Dieu est avec nous, mais ça me prend l'arche. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, on va à la reconnaissance. Et ce que tu as dit, frère Jean-Luc, on peut parler un petit peu plus de ce caractère, parce que plus tard dans le texte, et dans la poésie, on va plus prendre quelques temps de parler du caractère de Déborah, mais exactement, c'est ce qu'elle a dit. Elle s'est effacée dans le chapitre 4, on ne le voit pas. Elle s'est effacée vraiment, alors que là, elle prend de la place dans la poésie. Là, elle va pointer des éléments pour forcer les gens à rendre droit, à être reconnaissant à Dieu. On voit vraiment qu'elle est active vraiment, là. Elle est vraiment active. Alors, quelqu'un pourrait lire Juge. Les versets 6 à 12. 5, 6 à 12.
Au temps de Shamgar, fils d'Anna, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. On avait abandonné les villes ouvertes en Israël, on les avait abandonnées jusqu'à ce que je me sois levée, moi Déborah, que je me sois levée comme une mère en Israël. On avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. Voyait-on un bouclier, une lance pour 40 000 filles en Israël? Mon cœur va au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont portés volontaires. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez des blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, réfléchissez. Que de leur voix, les porteurs d'eau, au milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits, car il a mis Israël au large, alors le peuple de l'Éternel descendit au bord. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène les captifs, fils d'Abinadab.
Merci. 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 Et quand on lit certains commentaires, là, ce ne sont pas unanimes, surtout dans des versets. Oui, quand il parle des trucs blancs, là, des chevaux montés, des ânesses blanches, etc. Verset 10. Fait que je peux suggérer des choses. Bien, vous pouvez apporter votre grain de sel par rapport à ça aussi. Et ces versets traitent du courage des héros d'Israël. C'est les six versets qu'on vient de lire. Le courage des héros d'Israël. Et quatre noms sont cités. Avant, il n'était pas question... C'est comme si c'était le début, c'est la louange à l'Éternel. Ils reconnaissaient et remerciaient le Seigneur, comme on avait dit, pour les gens qui se sont levés, le peuple qui s'est levé, etc., les chefs, etc. Maintenant, il traite du courage de certaines personnes dont il nomme les noms. Shamgar, Jaël, vous vous rappelez Shamgar, c'est l'un des juges qu'on avait vu dans le chapitre 3. Et oui, c'est ça, oui. Jaël, c'est la femme qui a battu Sisera, oui, Déborah et puis Barak, c'est ces quatre personnes-là qui sont citées dans ces six versets-là. Et leur exploit, ils ne rentrent pas en détail dans leur exploit. Ils ne disent pas grand-chose de leur exploit, c'est juste qu'ils veulent les faire reconnaître, les souligner leur contribution. On a eu la victoire, oui, l'Éternel a intervenu, oui, mais il faut quand même reconnaître la contribution de ces personnes-là. Ces personnes-là. Ils ont combattu, ils ont fait quoi? Et dans sa poésie, elle tient prend le temps de les souligner. Voilà ce que je disais tantôt. Dans ce qu'on voit, et par rapport à notre commentaire de tantôt, et ce qu'on avait vu, qu'on vient de faire sur le chapitre 4, sur la personne de Déborah, je vois difficilement en elle une militante du mouvement féministe. Très difficilement, je vois en elle.
Si c'est pas vrai, même que c'est tellement beau qu'elle rappelle son gars un seul verset qui parle de lui. Mm-hmm. Ça c'était avant Yule et elle se rappelle déjà. Mm-hmm. Bon, elle n'était seulement pas parlée parce que 80 ans, soit qu'elle a. Sauf que Déborah est très vieille.
Oui.
Mais Shangar était avant Yud.
Oui.
Donc, elle a gardé cela. Elle s'est rappelée.
De tout ça.
Quelqu'un lui a dit cela, puis elle s'est gardée volontairement, puis elle a mis ça dans son chant. Mm-hmm. Ça ressemble beaucoup au chant de Myriam, ça ressemble au chant de Moïse.
Moïse.
C'est le chant de l'Éternel qui a appris dans Deutéronome 32, parce qu'elle rappelle au verset 8 le chant de Deutéronome 32 que l'Éternel a dit. Comme prophétie, qu'est-ce que va agir les Israélites? Donc, elle se rappelle de qu'est-ce que l'Éternel a fait comme action.
Oui, oui.
Donc, c'est pas un mot féministe, au contraire, elle est en train de montrer comment l'Éternel est fidèle.
Oui.
Est fidèle.
Oui. Ok. C'est pas juste ça qu'on a réalisé. On a réalisé deux choses. Aucune contestation de rôle. Il reconnaît que Barak, tu es l'homme, tu devrais aller. Aucune contestation des rôles n'apparaît chez elle. Juge de la nation, elle ne recherche aucune gloire personnelle. C'est ce qu'on vient de dire là. Aucune gloire personnelle.
Et justement, pour rejoindre ce que Dominique disait tantôt, son rôle de juge, elle ne voit pas ça comme un rôle d'autorité.
Mm-hmm.
Elle voit comme un rôle de mère.
Mère. Exactement. Mère. Après.
C'est le seul verset qui entre les deux.
C'est 3:31.
Ouais. Donc c'est pour ceux qu'on n'a pas de temps pour Shamgar parce que c'est le premier temps. C'est deux choses qui t'arrivent en même temps.
Ok.
Merci, frère.
Voilà. Elle ne cherche pas une gloire personnelle, c'est évident, on le voit. Elle préfère s'effacer et faire appel à un homme pour prendre le commandement des forces. On le voit dans le chapitre 4, versets 6 à 7 qu'on avait lu tantôt. Et toute la grandeur de cette femme-là transparaît dans ses actions, car elle contribue, elle attribue à Dieu et aux autres et la victoire sur l'ennemi. Ce n'est pas moi, c'est Barak, c'est les autres, c'est l'Éternel. C'est ce qu'on disait tantôt, elle le dit elle se voit comme la mère de la nation. Son action est motivée par l'amour pour son peuple. C'est son amour est comparable à l'amour d'une mère pour ses enfants.
C'est ça qu'on a vu jusqu'au 12, même le verset 9, hein, mm-hmm. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à son
mari. Wow. En tout cas, on voit l'idée là. On voit l'idée d'une femme qui vraiment qui reconnaît que les hommes, c'est ça. Je peux aider, oui, je peux aider. On voit sa contribution, c'est lui qui pousse Barak. Mais la gloire, elle la prend pas avec cette gloire là. Elle le donne à l'Éternel. Et puis comme on dit, elle se voit comme la mère, comme la mère de la nation là. Par amour vraiment pour ses enfants, une mère qui donne des conseils, qui est là pour diriger et prendre position s'il le faut. Sa discrétion n'est pas... On l'avait vu dans le premier chapitre, là. On ne va pas parler d'elle beaucoup là, dans le chapitre 4. Elle est comme effacée, discrète dans ce chapitre-là. Et encore là, c'est encore dans son champ, elle s'exprime pour reconnaître vraiment l'action des hommes, des autres et l'action de Dieu. Ce n'est pas synonyme de désintérêt. Et car on le voit engagé dans ce cantique-là, tous ces termes-là qui ont été cherchés, l'expression de sa reconnaissance et tout, l'identification de tous les sujets, de toutes les personnes qui ont contribué à cette victoire-là, c'est elle, c'est son œuvre. Et elle est très active, mais ce n'est pas pour une gloire personnelle. Elle est engagée dans ce cantique-là. Elle décrit la situation avant le réveil. On avait dit que pendant 20 ans, ils se sont fait abattus par les Cananéens avec Jabin. Avant le réveil, avant qu'ils soient réveillés, c'est ce qu'elle décrit dans son poème, là. C'est ce que je répète, tout simplement. Elle parle de l'insécurité des routes, c'est comme ça qu'on le comprend. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre, une compréhension différente de cela. Les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Vous avez peur. On voit l'insécurité des routes. C'est logique. C'est logique quand il y a le chaos, là. C'est le chaos. Oui. Il voit la faiblesse de l'autorité politique. Il l'identifie. Elle dit, les chefs étaient sans force en Israël. Ça a dû la ronger comme personne, comme mère. Sans force. Les forces militaires ne sont pas là. Ils ne sont pas là et son peuple est asservi, son peuple est maltraité, oppressé.
C'est pas juste une prétention lorsqu'elle dit qu'elle était une mère en
Israël. Oui.
Parce que ça l'a dérangé de voir le manque d'engagement
des
politiques. Oui. Comme, si on est triste, il faudrait faire quelque chose et ça a été touché. C'est pas juste, bon, ben, je t'en charge, c'est ça.
Ouais, c'est vraiment un cœur de. Gestion empathique du cœur, oui. 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 Elle aimait le peuple. Son Dieu d'abord, mais son peuple aussi. C'est ça?
La forme poétique, vu là, on voit comment elle importe. Elle répète le sans force. Sans force en Israël, sans force.
Oui.
C'est une situation.
Oui, elle répète. Elle répète. Elle répète. Et elle voit aussi la confusion spirituelle. Israël avait choisi de nous. Ça, il fait mal. On le sent de voir son peuple s'agenouiller devant les idoles, les atartés, les Baals. Et puis, elle exprime dans ce chant-là. Imagine, elle exprime dans ce chant. Comme vous voyez là, c'est vraiment la reprise du chapitre 4 sous forme poétique. C'est vraiment ça. Et la reconnaissance de l'intervention divine dans toutes ses actions. Et elle voit la tension internationale. Il y a une tension là. Quand l'ennemi est là, et puis on veut les attaquer. La guerre était aux portes. Elle exclame. La guerre était aux portes. Une armée sous-équipée. Découragée. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble face à l'ennemi. T'as pas d'équipement. Elle dit, on voit ni bouclier, ni lance chez les 40 milliers en Israël. Wow. Quelle femme. Elle bénit l'Éternel. On comprend maintenant encore plus ce qu'elle bénit l'Éternel pour ceux qui se sont levés pour combattre. Malgré cette situation-là, tout ce qu'elle révèle, la situation et des gens, des hommes, et se sont élevés pour être des chefs et des tribus, on va voir plus tard, c'est des tribus aussi qui l'ont accompagné, Zébulon et Neftali. Des tribus se sont joints à eux aussi pour combattre les Cananéens. Et elle est vraiment reconnaissante et nous appelle aussi à la reconnaissance. Des fois, on a tellement de choses que Dieu fait pour nous, mais on prend peut-être pas le temps. C'est pas une reproche, mais c'est comme ça, c'est souvent. C'est comme, quand je lisais ça, je pensais à des fois, moi je dis, merci Seigneur pour la nourriture. Merci, c'est bien. Mais c'est comme si dans le cas d'elle, dans le cas de Déborah, elle aurait été, merci pour la nourriture, merci pour la santé que tu m'as donnée, merci pour le travail que tu m'as donné, la force que tu m'as donnée pour travailler, merci pour les gens qui ont travaillé, la terre, merci pour la pluie que tu as fait tomber, etc. Là. Il va aller loin, elle va aller loin pour chercher tous les sujets de reconnaissance de cette victoire-là. Pour moi, c'était la nourriture qui est la victoire finale, mais quand tu remontes dans la chaîne, là, tu as toutes les fidélités de Dieu, la présence de Dieu dans tout ça. Et c'est intéressant. Elle bénit l'Éternel, et puis c'est pour nous, c'est une leçon de chercher toutes les interventions, de voir, que Dieu nous permette de voir avec nos yeux spirituels ces différents champs d'intervention. Après la victoire, par exemple, dans ce même texte, dans les 6 versets qu'on a lus, après la victoire, on avait vu la situation d'insécurité, de faiblesse, etc. Mais après la victoire, là, ça a changé. Elle le reconnaît, elle le voit. Le peuple reprend ses activités dans la joie. Et les commerçants, c'est comme ça que je le comprends, cette phrase-là, peut-être que vous comprendrez autrement, comprenez autrement, c'est comme si pour moi les commentaires que j'ai suivis aussi, les commençants peuvent changer. Parce que quand on a une situation chaotique et de crainte, on ne peut pas vaquer à ces activités-là, le commerce et tout. Là. Puis pour elle, elle dit, vous qui montez des blanches ânes et vous qui avez pour siège des tapis, vous qui marchez sur les routes, chantez. Chanter. C'est peut-être une activité commerciale, je n'en sais rien, mais c'est comme ça qu'on le comprend. Et les paysans n'ont plus besoin de se défendre contre les pillards. On comprend qu'il y a des gens qui sont là pour piller quand il y a le chaos. Et je pense à mon pays, Haïti, là, et puis d'autres pays dans le monde, quand tu vois qu'il n'y a pas de contrôle, l'ennemi est là, il profite de tout. Puis toi, en tant que personne, en tant que paysan du pays, tu dois devoir te cacher. Te défendre parce que les gens viennent chez toi, ils arrachent, ils prennent tout. Alors, j'assimile ça à la situation des paysans après la victoire qu'ils ont eue sur l'ennemi parce qu'ils ne sont plus là, ils ont vaincu. Les paysans n'ont plus besoin de se défendre contre les pillards. Et puis, quand le texte qu'elle utilise dans sa poésie dit que de leur voix, les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de son conducteur en Israël. Il voit vraiment la présence réelle de Dieu qui est là, qui dirige les événements en Israël. Et il rend Dieu gloire pour cela. Le peuple quitte ses abris, ne se cache plus dans les hauteurs. Voilà, dans les hauteurs. Et ils peuvent retourner à la maison. C'est la paix. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. C'est comme ça qu'elle exprime sa joie, sa reconnaissance pour la victoire. Qu'est-ce que la paix que la victoire accordée par l'Éternel produit. Je pense que c'est un lapsus. On va lire les versets 6, versets 13 à 18.
Alors le reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel nous donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Maquis vint des chefs et des habitants des commandants. Le prince Issachar fut avec Déborah et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée près des ruisseaux de Ruben. Grande fut la résolution du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des états à écouter les bêlements des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grande fut la délibération du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi dans cette tenue sur les navires? Azer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort. Et Neftali est même sur le cœur des champs.
Merci. Regardons qu'est-ce que nous pourrons tirer de ça. On avait dit tantôt qu'il y avait l'accent dans le point, la section précédente, l'accent sur les personnes, les acteurs dans cette victoire-là. Il a nommé Shamgar et puis toutes les quatre personnes qu'on a vues. Maintenant, on voit un accent sur les tribus. C'est pas juste les personnes individuelles. On voit une collectivité qui se met ensemble pour aller combattre l'ennemi commun. Des tribus fidèles sont mentionnées et des tribus infidèles aussi. Et les pointes du doigt, et les pointes du doigt, là, ceux qui sont au bord de la mer, là, et ils sont là. Moi, j'ai regardé ça, ils disent, tu es sur la plage, toi, et puis ton frère est en train de se battre. C'est quand même comique de voir comment elle présente ça. En tout cas, il y a un tac là-dedans, là, en tout cas, je trouve ça. Hein? Grand acte là. Quand eux ils lisent ça, oh waouh. Oui, ils n'ont pas aidé. Les fidèles et les infidèles sont mentionnés, les deux là. On voit Neftali, comme on l'avait dit tantôt, et Zabulon qui ont été convoqués en premier dans le chapitre 4. Ce sont les deux tribus qui ont été convoquées par Barak, après qu'il s'est consenti finalement à aller de l'avant. Là, il va chercher ces deux tribus-là et va leur assigner la position à la ligne, la première ligne. Là. Fait que ils seront les premiers. Dans le chapitre 5, verset 10, chapitre 4, verset 10, c'est là que Barak les interpelle pour aller et il les place en première ligne. Et dans le chapitre 5, verset 18, c'est repris. Zabulon est un peuple qui affrontera la mort. Et Neftali de même, c'est ceux deux-là qui ont dû confronter en fait dans la première ligne face à l'ennemi. Éphraïm, Benjamin, ce sont des tribus. Issachar sont venus soutenir Neftali et Zabulon. Ces deux tribus-là, Neftali et Zabulon sont les premiers. On voit ces trois tribus-là.
Spécial dans ça, Benjamin, la façon que je vois le juge, c'était rendu la plus petite des tribus parce qu'il y a eu un carnage là-bas à cause de avec les juges, jusqu'à Benjamin a été quasiment éliminé.
Ouais, même dans la.
Ça, c'est après, bon. Ben, c'est mon mignon, là. Donc, c'est une petite tribu, là, pas grand monde. Ben, elle y va quand même.
Mais si on parle de ça, la fusion, la scission, ça fait plus tard après Salomon. Et puis c'est là qu'on voit la scission du nord et du sud, l'Israël du nord et du sud.
Non, mais Benjamin, en tant que tel, avait été quasiment éliminé.
Okay.
En juge 19. À la fin du juge 19.
OK. Mm-hmm.
Je pense que ça a eu lieu avant ça.
Ah, OK.
Je pense,
okay.
Je crois. OK. Ça se peut que je me trompe, comme
avis. OK.
D'abord, c'est juste pour dire que c'est une situation qui est
neutre. Oui. Tu es tout petit. Tu es tout petit. Attends, plus petit. C'est ça. C'est ça, c'est pour ça que c'est elle et Judas qui vont être comme ensemble, tout le temps. C'est ça, tu es tout petit.
Et elle parle de Judas pour aller.
Ouais.
Oublier
par
Judas pour
monter là-dedans. Ouais. Alors. Manassé, tu dis? Oui, mais à travers Meir, je pense qu'il est Gad, qui sont ses enfants. D'après ce que j'ai lu, là, c'est à travers Meir, Mekir, comment qu'il appelle ça? Mekir, ou Metox? Oui, comment? Makir? Non, c'est 12. Makir, oui. Sans dire que ce Makir, c'est le fils de Galaad, qui est, je pense, qui est le fils de Manassé. En tout cas, le lien est là. Le lien est là, et puis...
C'est pas toute la tribu, mais c'est...
Une partie de la tribu. L'information est là, mais je pensais pas que quelqu'un allait creuser là-dessus. Oui, c'est ça, tu as cherché toute la tribu, là. Oui, oui. En tout cas, Manassé est représenté à travers ces deux-là. Est représenté. Ouais. Alors, eux, ils ont prêté. OK. Ces deux-là, ils sont représentés. Mais il y en a des autres, là, qui se sont. On avait vu à la fin du texte, là. Comment ils disent ça, là? Il y en a qui sont restés à écouter les bêlements. Il y en a d'autres. Du soleil, sur la plage. Je trouvais ça comique, la façon qu'ils disent ça, mais ils sont restés en retrait. Ils n'ont pas été aider leurs compatriotes. Ils n'ont pas été. On voit aussi le manque d'unité qui est marqué, mais cette fois-ci, je crois, on l'a vu dans les versets 16 et 17, là, c'est les préoccupations égoïstes. Alors que tout le monde, les autres frères sont en train d'apporter leur aide, leur contribution dans ce cas de guerre-là. Puis on voit, c'est Gad, Ruben, le texte nous dit, là, il répète, il y en a qui regardent de bellement, il y en a qui sont... Dans cette 18, c'est clair, c'est de ça qu'il parle. Et Galaad est au-delà du Jourdain, il n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires, hein? Et Aser s'est assis sur le rivage de la mer, et que ils n'ont pas bougé. On voit ce manque d'unité à ce niveau-là.
Là, je ne sais pas si c'est une hésitation, parce que c'est peut-être assez difficile quand même à comprendre à ce niveau-là. Uh-huh. On voit qu'il y en a qui n'ont pas bougé du tout.
Ouais.
Quand on parle de Ruben, on parle deux fois de grand filet de libération du cœur. Est-ce qu'ils étaient en train de discuter un peu est-ce qu'on s'y associe, on s'y associe pas? Non, finalement, ils ne sont pas partis, mais vraiment, par deux fois, c'est dit là, grand filet de libération du cœur. Verset 16, verset 15, près des ruisseaux de Ruben, grand filet de résolution du cœur.
Oui. C'est pas clair pour nous, là, c'est pas clair pour nous.
Mais bon, ils sont mis quand même au nombre de ceux qui n'ont pas bougé.
Qui n'ont pas bougé, c'est ça. Ils n'ont pas bougé. Finalement, ils n'ont pas bougé.
J'ai une petite note là, par rapport à Ruben. Ça dit, il a méprisé sa vie pour la mort. Donc, quand c'est traduit, les résolutions du cœur. Je n'ai pas les vécu dans l'original, mais c'est une petite note littéraire.
Et on voit le manque d'unité qui peut occasionner une érosion dans nos relations interpersonnelles. Ça, c'est garanti. Les frères et les cousins, c'est ce qu'ils sont là. C'est les fils d'Abraham. Ce sont les fils d'Abraham. Et puis Dieu leur a donné la victoire. Cette terre-là est promise aux enfants d'Abraham, à la postérité d'Abraham. Ils sont cette postérité-là. Et Dieu leur dit de aller combattre, je vous donne la victoire. Mais ils n'ont pas obéi complètement. Ils se sont assis sur la laurier. Certains sont contentés d'une demi-victoire, comme on l'avait vu la dernière fois. Et il y en a aujourd'hui qui disent, mais c'est pas mon problème, ça c'est toi ton problème, moi. On voit ça. Oui.
De toute façon, il y a 8 autres tribus qui y vont. Alors...
Oui, c'est ça. Ben, ouais, mais pourquoi eux, ils vont s'en aller, ils vont venir vous aider. Mais ça ne devrait pas être l'attitude, n'est-ce pas? C'est un truc de famine. ça ne devrait pas être l'attitude. Et leur relation avec Dieu aussi. On voit cette érosion là, parce que Dieu dit de faire ça. Dieu nous demande de le faire, et puis eux, non. Et ils sont dans la désobéissance. Même en face du danger, de la misère de leurs frères juste à côté, là. Ça fait 20 ans qu'ils sont pilonnés par les Cananéens, et puis ils sont indifférents. Est-ce que ça nous parle aujourd'hui? Absolument. La désunion ne s'exprime pas par une rébellion. On n'a pas dit « j'irai pas », mais on va s'occuper de nos affaires. Ils n'ont pas dit un non catégorique, mais disons, arrange-toi toi-même. Là. Est-ce que ça peut, on peut avoir des attitudes comme ça? Ça peut nous arriver, là. Ça peut nous arriver.
Passif.
Passif, on ne fait rien. Oh, ça ne me concerne pas. Ouais. En tout cas, on est en présence d'un défi au niveau de notre projet de croissance, qu'on peut, facilement adopter une attitude comme ça, ou l'inverse, et que Dieu nous dirige dans tout cela, pour l'accomplissement de ce projet-là, qu'on puisse être unis, et que Dieu nous interpelle pour faire avancer son œuvre. La proximité avec les peuples païens, ça peut creuser un grand problème aussi, parce que nous avons vu, il y en a qui se sont liés d'amitié avec les locaux, n'est-ce pas? Les Cananéens qui sont dans le village, qui n'ont pas chassé, fait qu'il y a des liens qui se sont tissés avec ces voisins-là. Mais pourquoi aller les chasser? Pourquoi aller se battre contre eux? À cause de la relation qu'ils ont. Et puis, on le voit dans notre vie chrétienne, les renonies avec le péché, etc. On tolère un péché, puis on ne peut pas attaquer ce péché-là. Si on vit dans ce péché-là, on ne peut pas l'attaquer, on ne peut pas l'accuser, ce péché-là. On va le tolérer, parce que c'est notre vie. Et puis, on voit ça dans cette relation des différentes tribus. Face à la misère, je veux dire, l'oppression d'Israël. Certaines tribus sont restées indifférentes aux besoins de leurs compatriotes israélites, c'est ce qu'on avait dit tantôt.
Il semblait avoir d'autres intimités plus indifférentes. Quand je lis le 17, pendant cette île qui est venue sur les navires, Assez s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports pendant les navires du port de l'île. L'idée qui me vient, c'est qu'ils étaient plutôt contentés avec leur relation avec ces peuples-là, commercer.
Possiblement.
Des vies de mort de leurs frères de leur côté.
Oui, possiblement. Ou bien des activités de pêche aussi, je ne sais pas. Oui, les commerces et tout ça. Mais finalement, c'est des préoccupations égoïstes. De ton frère, ton cousin. En fait, Dieu nous appelle à ça. Et le peuple Israël, et je crois que c'est les enfants de Dieu en général, ceux-là qui sont sauvés, oui, est appelé à être avant tout, avant d'être le frère de sang en Christ. Et c'est dommage que des fois on entend des querelles de famille entre chrétiens. Mais t'oublies, avant cette relation de sang-là, il y a notre relation avec Dieu. On a une relation spirituelle avant tout, il y a une relation spirituelle que Dieu chérit et que Dieu nous invite à cela. Je pense que c'est il y a 2 ou 3 semaines quand Richard nous partageait un texte dans je pense, Exode, où Dieu appelle le peuple Israël à être saint. Vous serez saint comme je suis saint. Puis l'accent dans ce contexte-là, c'est de s'occuper de tes frères. Aime ton prochain comme toi-même. Mythique, merci. Je nous appelle à la sainteté, et cette sainteté-là passe par l'amour des autres, ton prochain, etc., ton frère, tu ne feras pas ça, tu feras l'étranger, il fait toute la liste, là. Si tu veux être saint, voilà. Et je pense que c'est la même chose pour le peuple Israël, il a oublié dans ce contexte-là, le juge, et Dieu les appelle à être une famille unie, une famille spirituelle avant tout, même s'il n'y avait pas une proximité territoriale, géographique, etc. Mais Dieu les appelait à cela. Mais Il y en a qui n'ont pas obéi, qui ont préféré leurs activités personnelles. Mais gloire à Dieu, il y en a d'autres qui se sont joints à leurs frères. On va dire à une autre version, c'est versets 19 à 22.
Les rois vinrent, ils combattirent les rois de Canaan, à Taanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des yeux ont combattu de leur sentier, les étoiles combattirent contre Israël. Le torrent de Kizon les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite. À la spécificité de leur guerrier.
Alors, quand on lit ce texte-là, on voit vraiment le lien avec la révélation de la prophétie de Déborah dans le chapitre 4, qui va lui dire exactement, il va citer le torrent, etc. Là. Et on voit, il met tout ça en poésie pour le rappel. Pour rappeler la fidélité de Dieu. Elle voit le combat. Elle va faire donner des détails sur le combat dans ce contexte, dans ces versets-là. Et on assiste à l'affrontement des forces armées, là. Hein? C'est 19. On avait dit Zabulon et Neftali. Ils sont en face. Ils sont les premiers à affronter les Cananéens. L'échec des Cananéens ne vient pas. Elle le reconnaît d'une stratégie. Une erreur stratégique de Sisra. On ne veut pas croire que Sisra avait fait une erreur dans sa stratégie, mais Dieu a dirigé les choses qui se ramassent dans la maison de Jaël. Okay. Et c'est intéressant de voir quand même. Elle voit la main de Dieu qui dirige tout cela pour louer l'Éternel. Et l'échec non plus ne vient pas d'une faiblesse de l'ennemi ni de la force d'Israël. C'est parce que Israël est fort et que l'ennemi est faible, mais c'est parce que l'Éternel a combattu des cieux. Wow. Des cieux ont combattu de leur sentier les étoiles combattir contre Sisra.
Alors, on a pensé quand Rosé parlait de cinq pensées de Moïse devant la mer rouge.
Et vous, gardez le silence. Le silence.
C'est ça, c'est l'Éternel qui agit.
Oui. Et je pense que dans tous ces combats-là où l'Éternel envoie ses enfants, je pense qu'en arrière-plan, ils voulaient juste voir leur foi. Dieu allait combattre. Dans certains cas, on le voit qu'il combat pour eux. Là, ils n'ont pas grand-chose à faire. C'est lui qui va mener la bataille. Gardez le silence et soyons obéissants. Sois obéissant, c'est ce qu'il veut. Pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'il a voulu pour son peuple dans le désert. Pendant 40 ans, ils ne l'ont pas fait. Plus tard, après la terre promise, c'est le même message qui se répète, la confiance, de faire confiance à notre Dieu. Et la confiance passe par l'obéissance. Ça passe par l'obéissance. Pas une obéissance à moitié, une pleine obéissance. Une pleine obéissance. Et si le peuple vit toutes ces choses-là, c'est à cause qu'ils n'ont pas chassé tous les ennemis. C'est à cause de la désobéissance. De façon imagée, je le vois comme ça, il mentionne l'orage qui vient du ciel et qui a déversé des torrents d'eau, qui inonde les plaines et emporte les chars. Ils sont figés dans la boue. Wow! Et pourtant, regarde, ça c'est une traduction. Imaginez la poésie originale. Comment c'était versé. Wow! Mais c'est l'intervention de Dieu. On le voit. Et on voit la main de Dieu de façon mystérieuse qui donne la victoire. Elle, ça prend la foi, ça prend une connaissance de notre Dieu pour voir ça, pour voir Dieu à l'œuvre. La victoire, dans ce cas-ci, Dieu nous donne la victoire, elle est rendue facile. Mon âme foule aux pieds les héros. Tantôt, on parlait des armées, une force armée qui était sous-équipée. Et c'est cette armée-là qui a remporté la victoire. Puis elle a dit maintenant, mon âme, les héros de nos ennemis, là, hey, mon âme, foule-les aux pieds. Waouh! Elle reconnaît vraiment que c'est l'Éternel qui est à l'œuvre dans toute cette victoire. Pas un mot pour elle, la juge. Pas un mot d'élévation pour elle. En fait, elle dit, ben, tout ça s'achève, la victoire, le combat s'achève avec une chasse à l'homme. Alors, les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de la guerrière. Wow. La main de l'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence, on n'a pas grand-chose à faire. On va lire le dernier texte, la dernière portion pour clore aujourd'hui. Quelqu'un pourrait nous lire les versets 23 jusqu'à 31 d'une chose.
Maudissez mes bons, dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes parlants. Béni soit entre les femmes de Jaël, femmes de Héber, les Kéniens, les Kéniens. Béni soit elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pied. Et de sa droite, le marteau des travailleurs, elle a frappé Sisera. Lui a fondu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie, « Pourquoi ton char est si avec nous? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement ?» Les plus sages d'entre ces femmes lui répondirent, et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, deux jeunes filles, du butin en vêtements de couleur pour Sisera. Du butin en vêtements de couleur, brodé, un vêtement de couleur, deux vêtements, brodés pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant
40 ans. Merci. On va aller vite, le arrêt au bilan. On a lu le texte. Les vaillants reçoivent les honneurs et les lâches des blâmes. Premièrement, on a une ville qui est blâmée. La première ville, on n'en parle pas tellement. Je n'ai pas eu beaucoup de références pour cette ville-là.
C'est Neftali.
En Israël, Neftali n'a pas aidé dans les combats et elle est maudite. Et l'exploit de Jaël mérite beaucoup d'attention même. On le voit, l'exploit, là, il entre dans les détails, comment est-ce qu'elle a pu accomplir cette victoire, la main de Dieu à travers elle. Joël mérite de l'attention et demeure certainement dans les souvenirs. Sa bénédiction est réservée et répétée. Sans réserve et répétée, on le voit plusieurs fois, il répète que l'ennemi est vaincu et humilié, dans le verset 27, si on peut le lire. Pour Israël, la victoire est complète. Alors, il termine son chant. On n'a pas le temps pour entrer dans tous ces détails, mais on a lu les textes. On voit comment elle reprend vraiment le chapitre 4. On le voit, tout ce qui s'est passé à haut niveau dans le chapitre 4. On n'a pas eu ces détails-là, mais on voit sous forme poétique comment elle parle même de la mère de Sisera qui l'attend. Pourquoi il n'est pas arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, c'est extraordinaire comment il présente la scène. Mais pour finir, elle dit, mais celui qui aime l'Éternel et lui obéit, et celui qui obéit à Dieu, au Dieu qui a demandé de conquérir le pays, vaincra certainement l'occupant. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé. Oui, mon frère.
Je ne sais pas si tu en parles, mais c'est un Dieu que je trouve majestueux. Parce que le périsse, c'est tous tes ennemis. Et l'exemple qu'elle donne, c'est un homme Sisera qui attend avec peine contre des faux espoirs.
Faux espoirs, oui.
C'est ça, c'est ce qui va arriver à tous les ennemis de l'Éternel.
Wow. Mm-hmm.
Faux espoirs en nous-mêmes, un peu d'espoir.
Déception.
Déception. Mm-hmm. Totale. Mm-hmm. Et châtiment.
Ouais.
Donc, c'est comme ça qu'il va traiter les ennemis de l'Éternel.
Le jugement final, le jugement final. Et gloire à Dieu que nous avons cette espérance, que nous sommes du bon côté. On a accepté le présent de Dieu dans son Fils Jésus-Christ qui nous donne cette assurance qu'on puisse lui obéir, continuer à l'obéir, marcher dans ses voies, c'est ce qu'il veut. En conclusion, on pourrait dire que le cantique marque la fin de la domination de Jabin et la libération d'Israël. C'est le chant qui englobe tout, ce qui englobe toute la bataille et les victoires. Parce qu'on a vu, le peuple de Dieu a la victoire sur ses ennemis. Dieu s'attend à une obéissance totale de la part de son peuple. Et chaque victoire de la foi est une source d'encouragement, une occasion de célébrer le Dieu qui en est l'auteur. Chaque petite victoire qu'on a, ça nous encourage. Et nous devrions célébrer Dieu pour chacune de ces victoires-là, parce que c'est lui qui accorde la victoire. Les paroles de louange et de gratitude de Déborah et de Barak servent à rappeler que Dieu est fidèle à ses promesses. Il l'a dit dans sa prophétie, il a dit Barak, mais à travers, Dieu va te livrer. Et les Cananéens, n'aie pas peur. Et Dieu a tenu promesse. Il va nous donner la victoire sur nos ennemis, tant les ennemis spirituels que physiques. Nous devons donc nous tourner vers Dieu en tout temps, dans la prière et la louange, lui faire confiance et suivre sa volonté pour nous guider, nous protéger dans les moments d'épreuve. Quelqu'un parlait d'épreuve ce matin. Faisons confiance à Dieu en toutes circonstances. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Patrick, peux-tu te prier, s'il te plaît?